Et puis on lit au 1640, le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. Ce lien qui résulte de l'acte humain libre des époux et de la consommation du mariage est une réalité désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la fidélité de Dieu. Il n'est pas au pouvoir de l'Église de se prononcer contre cette disposition de la sagesse divine. Bon, juste, bon, ça reprend ensuite, ça reprend pas ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire que, au fond, cette alliance que les époux se donnent, quand ils s'accueillent mutuellement, renvoie une alliance qui est plus grande qu'eux-mêmes. C'est la réalité, j'allais dire, pour tous les chrétiens. Nous portons en nous-mêmes plus grand que nous-mêmes, parce que nous savons habiter par l'Esprit de Dieu. Et donc, du coup, le fait que cet amour authentique est assumé dans l'amour divin. Voilà, c'est ce que dit le texte quand il fait allusion à Gaudium et Spes numéro 48. Donc, c'est intéressant de redire que ça, le fait de s'unir dans le mariage crée un lien qui renvoie au lien avec Dieu. Je dis ça parce que parfois, il y a, particulièrement chez les femmes, comme une, dans certains cas en tout cas, une sorte d'opposition, que le lien avec le conjoint s'oppose au lien avec Dieu. Et alors, on ne le dit pas comme ça, mais dans le temps donné au conjoint et le temps donné à Dieu, d'une manière ou d'une autre, il y a comme une forme d'opposition ou une forme de tension. Et là, dans ce qui est dit dans le lien matrimonial, c'est tout à fait explicite, c'est de dire que non, le temps que je donne à mon conjoint, avec lequel je me suis uni, c'est le temps que je donne avec Dieu. Et il ne peut pas y avoir de contradiction, d'opposition, Et c'est ça, la présence de Dieu dans le couple lui-même, par le sacrement, fait que, en me donnant à l'autre, c'est un même amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais c'est un même amour, l'amour de Dieu et l'amour du conjoint. Et c'est dans cet amour-là que Dieu se donne et que Dieu vient à ma rencontre. Donc, je trouve ça intéressant de le redire, parce que bon, même si on le sait par cœur, mais parfois, chez certaines femmes que j'accompagne, etc., je trouve que c'est pas clair chez elles, quoi. Elle voit une forme d'opposition, pas d'opposition, mais bon, autant l'homme est assez tenté par l'efficacité, la réalisation extérieure, etc., autant la femme, par une spiritualisation qui est mal placée, qui marquerait, au fond, une sorte de distance avec son conjoint. Voilà. J'ai le temps pour Dieu, j'ai le temps pour mon mari. Mais non, il se trouve que c'est le même. Bon, c'est important de le redire parce que je crois que il y a des maris qui, si le mari estime être en compétition avec Dieu, évidemment, ça va lui poser un problème. Inutile de vous le dire, que mesdames, parce que il va pas se sentir à la hauteur, parce que s'il sent que entre lui et Dieu, et bien il y a sa femme, et que le meilleur des deux gagne. Donc, bon, non, c'est pas en place. Bon, je dis en forme de plaisanterie, mais parfois c'est vécu comme ça. Chez ça.
Autrefois, on disait que l'époux représentait le Christ dans le.
Oui, l'époux
représente.
Vous racontez bien. Mais le prochain représente le Christ aussi, donc. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il n'empêche que, parfois, nous aimerions un Dieu moins incarné. Un Dieu qui n'est pas à se raser chaque matin, si c'est possible. Donc, du coup, on aimerait bien un Dieu, voilà, plus spirituel, plus... Et donc, du coup, je pense que c'est important de se dire, c'est dans l'amour que j'ai pour le conjoint que c'est ça le christianisme, c'est le Christ. L'Église, c'est le Christ continué sur cette continuité dans l'incarnation. C'est ça la grandeur, c'est l'originalité du christianisme absolu. C'est, il peut pas y avoir d'opposition. C'est un même amour, une même pièce avec deux faces. Mais bon, l'amour de Dieu, l'amour du frère ou l'amour du conjoint. Bon voilà. Mais je pense que oui, je pense que c'est parfois c'est bien de se le rappeler, c'est bien de le redire, c'est bien de lui redire aussi. Quand je t'aime, quand je t'accueille, quand je prends patience avec toi, quand je c'est avec Dieu aussi. Pour moi, c'est tu es aussi l'image de Dieu. Et lui dira la même chose. Tu es aussi pour moi l'image de Dieu. C'est ça, c'est comme une sorte de mariage à trois, entre guillemets. C'est vraiment, c'est là où se donne le Christ. Mais c'est toujours compliqué de croire. On aimerait bien un Christ qui soit beaucoup plus immatériel, beaucoup plus évanescent. Hein, mais non, c'est là où il se donne. Alors, la grâce du sacrement de mariage, alors voilà, on y vient. En leur état de vie et dans leur ordre, les époux chrétiens ont, dans le peuple de Dieu, leur propre don. Cette grâce propre du sacrement de mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. Alors, donc là, ce qui est dit, bon, ce qui est assez traditionnel dans l'Église, au fond, il y a un sacrement propre parce qu'il y a un appel à la sainteté qui est propre. Le sacrement est toujours ordonné à la sainteté, c'est-à-dire à un amour parfait, à la perfection dans l'amour. Et donc, du coup, là, les épouses ont une sainteté particulière destinée justement pour... Il y a quelque chose qu'ils peuvent puiser dans l'union qu'ils ont célébrée et scellée le jour de leur mariage, et c'est là-dedans qu'ils vont puiser, parce que à travers cette union, ils vont découvrir aussi qu'ils sont appelés à la sainteté. Bon, je trouve ça intéressant de se dire que, voilà, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil, l'éducation, voilà, ils s'aident mutuellement. Donc le Christ lui-même qui est là, présent dans le don qui est fait dans le mariage, aide aussi les époux à découvrir qu'ils sont appelés à une sainteté, à une sanctification, parce qu'il est là. Qu'est-ce qui se rend saint sinon le Christ lui-même ? Et le Christ se donne dans le sacrement. Dans les sacrements, quels qu'ils soient, chaque fois que je communie, eh bien, il y a la sainteté de Dieu qui est donnée. Je communie à Dieu lui-même. Chaque fois que j'aime mon époux, c'est à Dieu lui-même aussi que je communie. Chaque fois que... voilà, je trouve ça bien de le rappeler. Ça fortifie leur unité indissoluble, ça. Ben voilà, si vous avez des difficultés à vous accueillir l'un l'autre, puisez dans le sacrement du mariage, demandez au Seigneur dans le sacrement du mariage, tirez les grâces qui viennent de là. Hein, comme on tire sur un vêtement on veut vraiment tirer pour avoir des grâces, mais voilà, sachez que le jour de vos noces, pour celles qui sont mariées, vous avez reçu un capital de grâces. À vous d'en faire usage, à vous de le demander. Parce que vous avez reçu le Christ aussi qui vous a été donné dans cette communion. Le Christ est la source de cette grâce, de même que Dieu prit autrefois l'initiative de l'alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens, par le sacrement du mariage. Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux, de se relever après leur chute, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les fardeaux des autres, d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, de s'aimer d'un amour fraternel délicat et fécond. Dans les joies de leur amour et dans leur vie familiale, il leur donne dès ici-bas un avant-goût du festin des noces de l'agneau. Voilà. C'est vrai que ce qui est demandé dans le mariage et ce qui est demandé dans la vie chrétienne, c'est très exigeant. Mais en même temps, nous croyons que Dieu le donne avant de le demander. Ça vous est donné. Il nous donne justement il vient à la rencontre des Dieu ne demande pas ce qu'il n'a pas donné par avance. Comment c'est, s'il y a une prière comme ça qui dit comment est-ce que ça dit, Dieu qui nous donne tes propres dons, d'une certaine manière, qui nous demande, il demande ce qu'il a donné après. Vous voyez ce que, quelque part, il y a un cadeau qui est fait, et parce que ce cadeau a été fait, il nous le demande. Ce ne serait pas quelque chose qui sera au-dessus de nos forces. Et ça, je pense que c'est important de le redire, et de se le redire. Dans tout sacrement, il nous est demandé la communion, parce qu'il nous l'a d'abord donnée. Il nous est demandé la foi, parce qu'elle nous l'a d'abord donnée dans le baptême. Il nous est d'abord demandé d'être adulte, parce qu'on a reçu la confirmation. Je veux dire, toi qui nous fais, comment ça se dit toi qui, c'est pas qui nous demande tes propres dons, mais c'est un truc comme ça, j'ai oublié, il y a une prière comme ça de, je crois que c'est le 26e dimanche du temps ordinaire, c'est Dieu qui nous fait la demande de tes propres dons, qui nous, voilà. Et au fond, je crois que c'est important de se redire ça, elle n'est pas loin de toi, cette parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ta cœur, elle est dans ton cœur, elle c'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible, cet amour fidèle, humble, parce qu'il nous a d'abord donné dans le sacrement. Où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que l'Église ménage, que confirme l'offrande, que scelle la bénédiction, les anges le proclament, le Père le ratifie. Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, un même service, tous deux enfants d'un même Père, serviteurs d'un même Maître, rien ne les sépare, ni dans l'esprit, ni dans la chair, au contraire, ils sont vraiment deux dans une seule chair. Là où la chair est une, un aussi est l'esprit, Tertullien. Voilà. C'est de dire que cette unité dans la chair, cette unité dans la vie, dans l'intimité des époux, renvoie aussi à une unité spirituelle. Là aussi, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a rien de sale dans le corps humain. On a parlé la dernière fois de la sexualité dans le couple, mais je crois que c'est important de. Et je trouve que Jean-Paul II, quelque part, nous a donné les mots pour ça. Trop longtemps dans l'Église, on a exalté la vie monastique par rapport à la vie matrimoniale, mais trop longtemps aussi, on a, d'une manière ou d'une autre, considéré que l'acte intime des époux était un peu entaché de péché, quoi. Quelque part, était pas propre, était pas. N'était pas assez spirituel. Et je trouve que c'est grâce à Jean-Paul II qu'on a découvert que l'acte intime, dans l'acte intime des époux, dans l'union intime des époux, il y a quelque chose de Dieu qui se révèle. Là encore, il n'y a pas d'opposition. Et je trouve qu'on doit beaucoup à Jean-Paul II, dans la théologie du corps, de découvrir justement que cet acte intime des époux, bien, permet justement cette communion et exprime. Quand il parle du corps, il dit « Le corps rend visible l'invisible, que ce soit dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ rend visible l'amour invisible de Dieu, que ce soit dans le don des époux. » Il n'y a pas d'opposition. Je trouve que on n'étudie pas encore assez cette théologie du corps de Jean-Paul II, mais il y a comme une continuité, une respiration entre le corps et l'esprit. Entre l'union spirituelle et l'union charnelle célébrée dans le mariage. L'amour conjugal exige des époux, de par sa nature même, une fidélité inviolable. Voilà, 1646. Ceci est la conséquence du don d'eux-mêmes que se font l'un à l'autre les époux. L'amour veut être définitif, il ne peut être jusqu'à nouvel ordre. Cette union intime, don réciproque de deux personnes, non moins que le bien des enfants, exige l'entière fidélité des époux et requiert leur indissoluble unité. La question de la fidélité des époux. C'est vrai que ça vient justement de cette fidélité de Dieu aussi. Mais cette fidélité de Dieu qui, bien souvent, est considérée comme statique. C'est-à-dire qu'on voit la fidélité comme ne pas aller voir ailleurs. Je veux dire, c'est le minimum syndical. Mais je trouve qu'on peut très bien manquer de fidélité sans aller voir ailleurs, en fermant son cœur à l'autre. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, il dit, pour les vœux religieux, c'est au fond la conversion des mœurs. Les moines, par exemple, les moines bénédictins, etc., font un seul vœu, c'est le vœu de conversion, qui inclut pauvreté, chasteté, obéissance. Mais il dit au fond qu'un moine qui aurait, d'une manière ou d'une autre, renoncé à la conversion, qui ne voudrait plus se tourner vers le Seigneur, qui endurcirait son cœur, eh bien, je vous dis que ce moine-là est infidèle, a déjà rompu ses vœux. Même s'il n'a pas été avec une femme, même s'il n'a pas... Voilà, il a rompu ses vœux parce qu'il a, dans son cœur, il n'a plus cette disponibilité de se tourner vers Dieu, c'est-à-dire de se convertir. Et de fait, La fidélité matrimoniale, c'est pareil, c'est quand on voit la fidélité de Dieu pour nous, c'est une fidélité qui avance. C'est pas une fidélité statique. C'est une fidélité dynamique. Qu'est-ce que je peux donner que je n'ai pas encore donné ? Est-ce que dans mon cœur, je me suis renfermé sur moi-même ? Et de ce point de vue-là, je suis infidèle, même si je ne suis pas allé vers un autre homme. Parce que je ne suis pas fidèle à cette capacité de don, vous voyez, à cette logique de don. Au fond, toute la vie chrétienne, c'est rentrer dans la logique de don. Du don du Père au Fils, du Fils au Père, manifesté dans l'Esprit. Je veux dire, dans ce don trinitaire, je rentre dans cette logique de don. De don de moi-même. Et quelle que soit notre vocation, on est invité à imiter le don de la Trinité, le don des personnes divines. Parce que ce qui caractérise la personne, c'est sa capacité de don. Les animaux ne se donnent pas, les végétaux, les minéraux non plus. Seule la personne, qu'elle soit humaine ou divine, est capable de don. C'est même sa définition. Et donc, fidélité, dans l'amour conjugal, c'est, hein, c'est ce, cette union intime, don réciproque de deux personnes, hein, exige l'entière fidélité des époux, hein, requiert leur indissoluble. Au fond, quand je prépare au mariage, je le dis, est-ce que ça vous fait peur, le fait que ce soit pour toute la vie? Et c'est marrant parce que les jeunes disent, si ce n'était pas pour toute la vie, je ne me marierais pas. Je ne me marierais pas si ce n'était pas pour toute, ça ne voudrait rien dire. Si ce n'était pas indissoluble, je ne me marierais pas. Au fond, je peux me donner à une personne avec qui je suis engagé totalement. Et qui s'est engagée avec moi totalement. C'est pas jusqu'à nouvel ordre, hein, c'est ça, à un moment donné, il est marqué jusque, non, c'est pas ça. Jusqu'à nouvel ordre, non, c'est pas, je sais pas, je me donne jusqu'à nouvel ordre. Hein. C'est important de se dire, de rappeler de cette union intime, don réciproque de deux personnes. Le 1647, le motif le plus profond se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à son Église. Par le sacrement de mariage, les époux sont habilités à représenter cette fidélité et à en témoigner. Par le sacrement, l'indissolubilité du mariage reçoit un sens nouveau et plus profond. Et à en témoigner... C'est vrai que on ne prend pas assez conscience que du témoignage que vous ne prenez pas assez conscience, comme pour celles qui sont mariées, du témoignage que vous pouvez donner dans la fidélité. Particulièrement auprès des jeunes générations. Et c'est vrai que les jeunes générations je pense, quand on dit jeunes générations, c'est celles qui, jeunes adultes, quoi, 25-35 ans, quoi, qui sont à l'aube de se marier, de fonder une famille, etc., ben, ils regardent vers les couples qui marchent. Et je leur pose la question, mais est-ce que vous vous identifiez à un couple ? Parce que ça fait peur, c'est sûr que c'est tellement transcendant, tellement... Et puis on voit bien, c'est des CDD partout, il n'y a pas de CDI, quoi. Je veux dire, c'est du long court terme partout et du long terme nulle part. Et on vous demande, vous, de vous engager sur le long terme dans le mariage catholique. Eh bien, le fait de voir d'autres qui y sont arrivés, même imparfaitement, même avec fragilité, ça les encourage. Ça les encourage. Les époux sont habilités à représenter cette fidélité, à en témoigner. Voilà. On n'est peut-être pas des saints, on a connu des hauts et des bas, mais on est encore ensemble. Et du coup, pour un jeune... Eh bien, ce sera une manière aussi de se dire ben, que l'amour matrimonial est possible. Vous savez, dans l'Église, cette dimension de communion des saints est présente partout. Et moi, j'invite, quand je célèbre comme ça des noces, un mariage, donc j'invite les témoins à entourer les futurs époux. Je leur écris avant. D'abord, je prends contact avec eux. Est-ce que vous voyez un problème, etc. Bon, je fais toute une démarche auprès des témoins parce que je crois qu'ils sont sous-estimés. Mais j'invite aussi à l'Assemblée à renouveler, en tout cas ceux qui se sont donné le sacrement du mariage, à renouveler avec les nouveaux époux, les futurs époux, renouveler leur engagement. Quelque part, un engagement, même s'il est personnel, il n'est jamais solitaire. Parce qu'il rayonne, il retentit au-delà de nous. De même, une rupture d'engagement n'est jamais personnelle, si elle est personnelle, n'est jamais solitaire. Je ne me rappelle plus le nom de cette sainte qui disait, je pense qu'elle était sainte du reste, ou bienheureuse, une âme qui s'élève, élève le monde, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, on est liés les uns aux autres. Et le fait d'avoir un témoignage de fidélité dans l'amour est un soutien pour d'autres, retentit dans la vie des autres. Et ça aide parfois à tenir. Parce qu'on se dit, bon, parce qu'il y a des vies de couple difficiles, parce qu'il y a des... Voilà, c'est compliqué la vie, parce que... Mais de se dire, d'autres dépendent de notre témoignage aussi, d'autres dépendent de notre engagement. D'autres regardent vers nous. On n'en prend pas toujours conscience, mais c'est bien plus vrai qu'on ne le croit. Même si c'est imparfait, hein, même si parfois on s'engueule, comme le pape François, comme ça, des belles images. Même si vous cassez toute la vaisselle, mais à la fin, réconciliez-vous, quoi. Donc, mais bon, c'est comme pour dire, ben voilà, à la fin, remettez l'alliance au cœur de vos vies. Parce que vous avez été chargé de manifester l'alliance au monde. Qui se donne dans l'alliance d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire dans l'altérité. Pour ça, le mariage, c'est d'un homme et d'une femme. Il y a toutes les lois qui peuvent passer, c'est sympathique. Mais bon, mais le mariage, c'est... Parce que justement, quelque part, dans l'alliance, c'est l'alliance avec l'autre. Autre comme moi, dans l'altérité, celui qui n'est pas moi. Et quelle est la première altérité qu'on constate dans le monde visible? C'est l'homme et la femme. Entre les personnes humaines. C'est la première altérité. Il n'y a pas d'amour matrimonial sans altérité. Donc vous êtes signe de l'alliance avec Dieu qui est autre que nous, hein, et c'est aussi le signe. Mais bon, même si c'est imparfait, rappelez-vous d'une manière ou d'une autre, vous êtes chargé de manifester cette alliance-là. En même temps, vous êtes chargé, en même temps, vous recevez la grâce. Ce qui est tout à fait encourageant, parce que si on est chargé sans recevoir la grâce, c'est compliqué, parce que vu nos caractères, vu notre dureté de cœur, vu les difficultés de relation, si c'est pas Dieu lui-même qui se donnait avant de nous demander ses propres dons, ben on n'y arriverait pas, ce serait juste impossible. Le 1648, il peut paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un être humain. Il est d'autant plus important d'annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime d'un amour définitif et irrévocable, que les époux ont part à cet amour, qu'ils les portent et les soutient, et que par leur fidélité, ils peuvent être témoins de l'amour fidèle de Dieu. Les époux qui, avec la grâce de Dieu, donnent ce témoignage, souvent dans des conditions bien difficiles, mérite la gratitude et le soutien de la communauté ecclésiale. Il y a un service que vous rendez comme époux que personne ne peut rendre à votre place. Un service d'amour. Un témoignage. C'est pour ça que l'Église soutient les époux, je veux dire, met beaucoup de force, même si... Bon, ça reste bien modeste, mais on en parlait entre frères comme ça à midi, on s'est dit, ben, par rapport à ce qui existait avant, il y a beaucoup plus d'énergie mise par les paroisses, les diocèses, dans la préparation au mariage, que du temps de nos grands-parents, par exemple. Ou préparer le mariage, c'était préparer la cérémonie. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, on voit, bon, il y aurait beaucoup plus à faire, bien sûr, mais l'Église s'est mise en route, quoi. On voit bien qu'il y a... Parce que, justement, il y a un témoignage qui est donné, il y a une gratitude de la communauté ecclésiale. Parce que, vous vous rappelez, hein, on a dit ce matin, il y a les sacrements d'initiation, les sacrements de guérison et les sacrements de communion. Bon, ça va, vous suivez à peu près. Et donc, vous rappelez la communion. Et quel est le plus grand des dons entre l'amour et la charité, entre la charité, la foi et l'espérance? Il n'en restera plus qu'un, c'est la charité. Même si imparfait, mieux vaut une communion imparfaite qu'une engueulade parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux vaut une communion, voilà, qu'un cas, qu'une division magnifique. Parce qu'aucune, de toute façon, aucune division n'est magnifique. Donc, on ne choisit pas toujours, je sais bien, mais... Il existe cependant 1649 des situations où la cohabitation matrimoniale devient pratiquement impossible pour des raisons très diverses. En de tel cas, l'Église admet la séparation physique des époux et la fin de la cohabitation. Les époux ne cessent pas d'être mari et femme devant Dieu. Ils ne sont pas libres de contracter une nouvelle union. En cette situation difficile, la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation. La communauté chrétienne est appelée à aider ces personnes à vivre chrétiennement dans leur situation, dans la fidélité au lien de leur mariage qui reste indissoluble. Alors, CIC, c'est pas la banque. CIC, c'est le code de droit canon. Le numéro que vous avez là en regard, voilà, c'est les codes du droit canon. C'est vrai que parfois... Parfois, courage, fuyons. C'est-à-dire que on n'a pas à se laisser détruire dans le cas d'un époux violent, par exemple, d'un époux destructeur, profondément destructeur, ou d'une épouse, hein, mais bon. On n'a pas à se laisser détruire. On doit se protéger. C'est pour ça que l'Église accueille ce qu'on appelle la séparation de corps. L'autre n'en demeure pas moins mari et femme devant le Seigneur, mais on dit que la communion, la vie commune n'est plus possible. Parce qu'il y a une maladie psychiatrique, parce qu'il y a une situation de fait qui fait que la vie commune entre les époux devient juste un autodestructrice. Donc l'Église ne va pas demander l'impossible non plus. Alors bien sûr que la réconciliation, ce serait la meilleure des solutions, mais voilà, au fond, de garder cette communion, certains l'ont fait. Ils disent, ben voilà, même si je ne peux pas vivre avec mon mari, avec ma femme, pour X raisons, parce que c'est plus possible, mais je veux garder cette fidélité à notre engagement. Ça reste, c'est une grâce qui est faite, ça, bon. Mais bon, je trouve que c'est assez intéressant, c'est de découvrir qu'au fond, on peut vivre une certaine, certain célibat forcé dans certaines circonstances, mais quelque part, c'est la grâce du sacrement de mariage qui nous aidera à la vivre, cette situation de célibat forcé. Maintenant, il faut voir au cas par cas, il faut voir... Ça reste complexe. Alors, nombreux sont aujourd'hui, dans bien des pays, des catholiques qui ont recours au divorce, selon les lois civiles, et qui contractent civilement une nouvelle union. L'Église maintient par fidélité à la parole de Jésus-Christ, quiconque répudie sa femme en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de la première, et si une femme répudie son mari en épouse un autre, elle commet un adultère. Marc 10, 11 et 12. Qu'elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l'était. Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors, ils ne peuvent accéder à la communion eucharistique aussi longtemps que persiste cette situation, par la raison même qu'ils ne peuvent exercer certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de paissance ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'alliance et la fidélité au Christ et se sont engagés à vivre dans une continence complète. Voilà, donc ça c'est la position de l'Église très traditionnelle, j'allais dire, de dire, bon, on peut éventuellement se remarier après une séparation, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'aux yeux de Dieu, il n'y a qu'un seul homme et qu'une seule femme qui est mari et qui est avec lequel on est uni. Et si on refait sa vie, c'est pour vivre comme frère et sœur, quoi, quelque part, avec l'autre. Un compagnon, une compagne de route, mais vivre comme frère et sœur. Voilà, je crois que c'est bien de le rappeler. Maintenant, c'est bien aussi de rappeler que c'est important de discerner avant de se marier. Parce que je suis personnellement convaincu que à peu près 80% des difficultés du mariage se voient avant le mariage. Et lors de la préparation au mariage, on aurait pu voir, si elle avait été cette préparation sérieuse, on aurait pu voir les difficultés que le couple allait traverser. Alors, pas tout, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et que voilà, tout n'est pas écrit sur des tablettes, mais qu'en grande partie, il y a des choses qu'on aurait pu voir. Et que parfois, il faut du courage, tout simplement, pour dire aux futurs, aux fiancés, ben écoutez, n'allez pas dans cette direction, parce que vous allez dans la direction de la souffrance. Alors moi, ça me pose aussi cette question, je l'ai dit ce matin, de l'engagement de l'Église aussi dans l'accueil des fiancés et dans le don du mariage. Alors, là aussi, pour rajouter un peu la complexité que j'ai dit ce matin, parce que les ministres du mariage, c'est les fiancés eux-mêmes, c'est les époux. C'est même pas le curé, même si on lui dit, ben, tel curé nous a mariés, etc., etc. Non, c'est les époux qui sont ministres, parce que c'est basé sur le consentement. Ça rajoute encore à la difficulté. Le diacre, le prêtre ou l'évêque n'est là que témoin de l'engagement des époux au nom de l'Église. Mais ce n'est pas lui qui unit. D'où l'importance d'accompagner le discernement pour le consentement. Pour qu'il y ait un vrai consentement. Le consentement, c'est fort. Hein. Consentir n'est pas sentir. Hein. C'est-à-dire, c'est consentir, c'est vraiment le don de soi-même à l'autre. C'est le consentement, le consentement du Christ au Père. C'est l'obéissance du Christ au Père. À l'égard des chrétiens, 1651, à l'égard des chrétiens qui vivent en cette situation et qui souvent gardent la foi et désirent élever chrétiennement leurs enfants, les prêtres et toute la communauté doivent faire preuve d'une sollicitude attentive afin qu'ils ne se considèrent pas comme séparés de l'Église, à la vie de laquelle ils peuvent et doivent participer en tant que baptisés. On les invitera à écouter la parole de Dieu, à assister au sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité, aux initiatives et à la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence et à en accomplir les actes afin d'implorer jour après jour la grâce de Dieu. Bon, voilà, de dire que tous nos frères et sœurs qui sont dans une situation de divorcé remarié, ce n'est pas parce qu'ils sont dans cette situation-là qu'ils ne peuvent pas construire l'Église, quoi, qu'ils ne peuvent pas rendre témoignage comme baptisés à titre personnel. Ils ne rendent pas témoignage comme communion, comme alliance, mais à titre personnel, comme baptisés, ils peuvent rendre un témoignage. C'est important. Ils ont aussi une place dans la communauté des chrétiens. Et ils peuvent contribuer à la justice et à la paix. Voilà, je crois que c'est... Je pense que c'est tout. C'est bien, non, c'est bon. Voilà un peu ce que je voulais vous dire cet après-midi, un peu plus brièvement que ce matin, mais est-ce que ça reste des questions qui sont, comme vous l'imaginez, complexes pour les baptisés, complexes pour les prêtres, surtout dans une ambiance de grande volatilité matrimoniale, de grande fragilité. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... Anne, tu avais ce matin une question finalement, tu as répondu. Mais voilà, est-ce que vous avez ou des témoignages ou des choses à rajouter ou des sur cette question des grâces du sacrement du mariage et ou des interrogations Oui, oui. Oui, c'est pas le célibat géographique. Ils sont séparés de corps et donc du coup ils sont célibataires. Voilà, il y en a un qui est parti, grosso modo, puis voilà, ben, qui a laissé l'autre en plan, quoi. Et qu'est-ce que je vous dise.
Mais ça existe, hein.
Oui, ça existe. Oui, oui, ça existe aussi. Maintenant, j'ai accompagné un jeune homme, je dis pas que ça n'existe pas, mais quand vous avez 35 ans et que votre femme s'est barrée avec un autre et que. Elle a fait un enfant avec un autre et que vous vous dites, je fais quoi de ma vie, moi, mon père? Moi, j'ai 35 ans, là. Moi, je suis pas moine, hein. Moi, pour être moine, moi, je serais rentré chez les moines, sinon. Moi, je me suis marié pour toute la vie. Pour moi, c'était clair, net et précis. Et c'est vrai pour le garçon, pour les filles, je veux dire, bon... Il y en a qui restent fidèles, etc. Maintenant, ça reste très compliqué. Ça reste très compliqué parce que ce n'est pas leur vocation, justement. C'est intéressant de voir que le célibat non consacré n'est pas reconnu comme vocation par l'Église. Seul le célibat consacré est reconnu comme vocation, comme appel de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui juge, heureusement. Maintenant, chacun, oui. Maintenant, c'est l'Église qui accompagne. Maintenant, voilà, il faut accompagner. Et quand on vous demande qu'est-ce que je dois faire, mon père, ben, vous baissez les yeux, vous regardez vos chaussures, vous regardez le plafond, vous regardez dehors, vous regardez partout, vous dites qu'est-ce que je dois faire, mon père? Que Dieu, ben, vous dites c'est Dieu qui juge, oui d'accord, mais bon, quand il reviendra pour juger les vivants et les morts, mais j'ai encore 50 ans ou 60 ans de vie à peu près active devant moi, qu'est-ce que je fais? Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Et puis, vous savez, dans la morale catholique, il y a trois aspects qui sont très importants. Il y a les principes. Il y a la décision en conscience, il y a l'accompagnement des personnes. Les principes, là on vient d'en évoquer quelques-uns, et c'est vrai pour toute la morale en général. Bon, ensuite, la décision en conscience, il y a la liberté de conscience. Les principes viennent éclairer la liberté de conscience, mais bon, la personne décide en conscience ceci ou cela, qui peut être conforme ou non au principe. Mais dans la conscience, nous nous interdisons d'intervenir. Parce que dans la conscience, comme dit le Concile Vatican II, la conscience est ce tabernacle où Dieu agit. Donc, quelque part dans la conscience, le prêtre, toute personne doit rester, enlève tes chaussures car cette terre est sacrée, je veux dire, c'est... Il y a quelque chose de sacré dans la conscience de l'homme et de la femme dans lequel nous ne pouvons intervenir. On éclaire, on peut éclairer, mais on ne choisit pas, on ne fait pas le choix de l'autre à la place de l'autre. Il y a un choix que l'autre fait en conscience, que nous on estime compliqué peut-être ce choix, mais d'une manière ou d'une autre, ce choix-là, on l'accueille. Et puis l'accompagnement des personnes. dans les questions de respect de la vie, par exemple, dans les questions de... dans beaucoup de questions de morale. On estime que ce n'est pas le bon choix qui a été fait. On a dit où était le bien. Maintenant, l'autre n'a pas voulu l'entendre, ou le comprendre, ou le réaliser, ou sa propre fragilité n'a pas pu le réaliser. Voilà, c'est... Est-ce que c'est pour autant qu'on ne va pas l'accompagner ? Est-ce que c'est pour autant qu'on ne va pas accueillir dans sa propre maison un enfant qui vit maritalement avec un homme ou une femme sans être marié ? Et il viendra... pour passer les vacances avec vous, avec son ami, sans être marié. Il sait très bien ce que vous, ou elle sait très bien ce que vous pensez de la chose. Quid de l'accompagnement des personnes ? C'est important aussi de se dire que c'est quand même pas rien le fait d'accueillir l'autre, même si, ah oui, mais vous vous imaginez pas, il y a l'exemple donné aux plus petits, il y a le ceci, il y a cela, et sans parler de réalité homosexuelle, je veux dire, quand l'autre, on se découvre un enfant qui a des tendances homosexuelles et vit un couple homosexuel et qui demande à passer les vacances chez vous, avec sa compagne ou son compagnon, c'est complexe. Ah. L'accueil des personnes. Ah ben, il faut accueillir. On dit qu'on n'est pas pour, de toute façon, on n'est pas besoin de le dire, mon ami, l'autre, c'est très bien ce que vous pensez, mais il y a l'accueil des personnes. Ben, il y a la charité. Oui, mais il y a la charité, mais la charité, c'est compliqué, la charité, justement. La charité, c'est compliqué. Je veux dire, si c'était spontané, ça, on serait pas là à faire des haltes spirituelles. Donc du coup, mais c'est bon là. C'est là qu'on regarde la montre. On attend que le gong être sauvé par le gong. Mais oui. Et s'il y a des autres qui sont à la maison et qui voient débarquer sa sœur avec sa petite copine, etc., et qui partagent le lit, En même temps, est-ce qu'on va ne pas accueillir l'autre et ne plus le voir, carrément ? Il y a des parents qui ont fait ce choix, ils disent, on ne te verra plus, jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. On ne peut pas non plus être d'accord avec ça, je veux dire, et peut-être ce qui a été compliqué dans le dialogue, justement, dans toute cette question du mariage pour tous et compagnie. Bon, l'Église a rappelé, et puis il y a une relevée en masse des chrétiens, c'est surtout les catholiques qui sont bougés, à juste titre, pour rappeler que le mariage c'est l'homme et la femme, ça c'est bon, c'est, à mon avis c'est non négociable. Mais peut-être aurions-nous pu nous aller vers la question de l'accueil des personnes. Donc il y a les principes, la liberté de conscience, l'accueil des personnes, l'accompagnement des personnes. Oui. Ah oui, 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 ah bah oui, bah ça oui, oui. Oui. Non. De son côté, c'est sacramentel, mais de l'autre qui n'est pas baptisé, forcément, c'est pas sacramentel. Pour un des deux, oui, pour un des deux. De son côté, c'est indissoluble. Mais de l'autre côté, non. Eh oui. Non, alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde la question ? Quand un des deux n'est pas baptisé, n'est sacramentel que du côté baptisé, forcément. Oui, oui. Il n'est pas baptisé. Il n'est pas... Ah bah oui, par définition, c'est pas sacramentel. Ah non, un des deux doit être baptisé, un des deux.
Et si celle qui n'est pas baptisée s'en va, quitte l'époux, est-ce que le mariage est
Ah non, non, il n'est pas nul. Disons, celui qui n'est pas baptisé, comme il n'est pas baptisé, il peut refaire sa vie, hop, 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 et puis... Oh là là, oh là, attention. Comment ? Oui, mais c'est pas signe d'une réalité transcendante. Je veux dire, c'est pas ça. Ah, il l'a dit, oui, mais là aussi, la disparité de... Mais en fait, comme il n'est pas disciple de Jésus parce qu'il n'est pas baptisé, et il n'a pas voulu l'être parce qu'il n'a pas entrepris un cheminement de catéchuménat, du coup, pour lui, on ne va pas lui demander les exigences du disciple de Jésus. Alors, s'il s'engage. Mais il s'engage. Parce qu'en fait, les réalités de fidélité, indissolubilité, etc., c'est aussi des réalités naturelles. Ce n'est pas des réalités surnaturelles. S'il n'est qu'entre chrétiens, c'est élevé à la dignité de sacrement. C'est des réalités naturelles. Je veux dire, l'ouverture à la vie, éduquer les enfants chrétiennement, la fidélité, etc. De fait, sauf avec le divorce, etc., civil, mais dans le divorce. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup de différence entre le mariage civil et le mariage religieux, parce que parce que c'est une réalité naturelle aussi, le mariage. Alors, maintenant, est-ce qu'il pourra se remarier comme ça Mais de fait, pour lui, ce n'est pas sacramentel, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'il ne peut être sacramentel s'il est baptisé, si c'est la porte. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Si après il est baptisé, ça ne revient pas d'office sacramentel. Non, non. Alors, tout dépend s'il reste avec la même femme ou le même homme. Nos soucis. Détendez-vous, mesdames. Ça va bien se passer. C'est comme chez le dentiste. Mais si ensuite il se sépare, fait un cheminement de conversion, demande le baptême. Et ensuite se remarie, dans ce remariage, ça c'est sacramentel pour lui aussi. Ça deviendra. Oui, mais pas avec la première femme, avec ou premier homme avec qui il s'est engagé. Vous comprenez, le sacrement, il se donne qu'entre baptisés. Ah oui, ah bah, du coup, oui, là, il n'y a pas de problème. Bah, oui, du coup, ça devient sacramentel, automatiquement. Mais s'il a entre-temps divorcé, si entre-temps il a divorcé, je pense, si entre-temps, s'il se marie, il demande le baptême, etc., bah, de fait, il devient comme un chrétien, il peut même recélébrer ou renouveler l'engagement des promesses matrimoniales, bah, ça devient aussi pour lui sacramentel, automatiquement. Mais s'il se marie, se sépare, demande le baptême, se remarie, ben c'est sacramentel qu'avec le deuxième mariage. On ne peut pas se marier tous les jours, c'est ça? Non, non, ça ne demande pas. Non, non, non. Non, mais ça, c'est les cas pour histoire de faire des haltes spirituelles, quoi. Donc, donc oui. Oui. Ah, je ne saurais pas vous dire. Là, il faudrait que je... ça a peut-être pas toujours été, je crois. Je pense aussi une ouverture. Est-ce que c'est là, je saurais pas vous dire. Oui, oui, oui. Mais je saurais pas vous dire. Là, je veux dire que je sèche parce que est-ce que et non, ben non, il y a des gens même qui se baptisent avec des gens d'autres religions, qui se marient avec d'autres gens d'autres. Ouais, mais je pense que c'est nouveau. Je pense que c'est nouveau. Mais bon, ça, on peut le voir aussi comme un lieu d'évangélisation, un lieu de... Oui. 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 Ah, de prévenir. D'autant plus que s'il les a accompagnés au mariage, c'est lui qui va remplir le dossier. Même si ce n'est pas lui qui célèbre le mariage. remplit le dossier matrimonial, le prêtre qui accompagne au mariage, et non pas le prêtre qui célèbre.
En cas de divorce.
Non, je ne parle pas de cas de divorce. Moi, j'ai accompagné des prêtres, des jeunes vers le mariage, et bien ils se mariaient au fin fond du Poitou, ou de... du coup, il disait, bah, je lui dis, écoutez, moi, je vais pas du Limousin ou du Berry, écoutez, je ne veux pas courir là-bas pour célébrer une heure de mariage et faire 15 heures de TGV. Non, ça n'est pas possible, ça. Trouvez-vous un prêtre local, le local de l'étape, et puis voilà, et puis mariez-vous avec lui. Donc, c'est tout à fait, disons, ça s'habitue. Il peut y avoir trois prêtres qui interviennent dans un mariage. Il y a le prêtre qui accompagne, qui prépare, il y a le prêtre qui célèbre, et il y a le prêtre qui donne la délégation, il y a le curé. Parce que celui qui est curé de la paroisse où aura lieu le mariage a, en vertu de ses pouvoirs de curé, délégation pour célébrer les mariages. Maintenant, si quelqu'un, un autre prêtre de l'extérieur vient, il lui donne délégation pour pouvoir... Il doit demander l'autorisation. Donc il peut y avoir trois prêtres qui interviennent dans un mariage. Donc si le prêtre célèbre n'est pas celui qui accompagne, et celui qui accompagne dit, écoutez, ils vont dans le mur, il est de son devoir, et dit, je ne vous marierai pas, il est de son devoir de se prévenir. Maintenant, si l'autre veut marier, encore une fois, ça, les ministres, c'est les fiancés eux-mêmes. Sauf à ce qu'il y ait preuve matérielle de dire, dès que ça ira mal, ou alors preuve matérielle d'infidélité, preuve matérielle de dire, de toute façon, moi c'est pour un temps, puis après j'irai voir ailleurs, ou etc., etc., il peut pas ne pas les marier. Le curé, en tout cas, le curé local ne peut pas ne pas les marier.
Et alors vous écrivez?
Ah ben, on écrit, on parle, on fait tout ce qu'on peut, mais bon... Oui, après ça sert pour une nullité, mais bon, si on peut éviter une nullité et on peut. Oui. Ah ben, celui qui a préparé, il y a forcément, il y a eu à un moment donné un accompagnement. C'est-à-dire, il y a eu un dossier qui a été préparé. Voilà, il a rempli le dossier. Ces dossiers sont ensuite archivés dans les diocèses et on peut mettre ce qu'on appelle une réserve. C'est-à-dire que quand, moi, il m'est arrivé de dire, écoutez, moi, je ne vous vois pas, moi, je ne célébrerai pas vos noces parce que vous allez dans le mur, et si vous voulez les célébrer, je mettrai une réserve. Je veux dire, ça calme carrément les ardeurs.
Hein. Ça, c'est dans le c'est bien préparé.
Oui, mais du coup, il y a une réserve. Ce qui fait que quand ensuite, il y a une demande de déclaration d'unité, de dire, il n'y a jamais eu mariage, c'est ça, c'est pas qu'on annule le mariage, il n'y a jamais eu un consentement éclairé, eh bien, quand il y a, on ressort la réserve du prêtre, dit, regardez, le prêtre, ça aide, c'est pas ça qui va faire la déclaration d'unité, mais ça aide. Oui, bon, très bien. Oui, oui. Mais il ne faut pas y aller doucement, en fait. Mais il faut y aller clairement, parce qu'il y a trop d'enjeux, quoi. Et puis il y a trop de souffrance. Inutile.
Et en même temps, comme il s'aime.
Mais l'amour n'est pas une condition pour le mariage.
Non, mais il rend plus difficile.
Ah, bah oui, bah forcément. Oui, mais je voulais être sûr que ça les calme, hein, quand même. Quand on commence à leur dire, écoutez, là, votre manière de vous aimer, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Ça va vous conduire dans le mur. L'amour n'est pas une des conditions de validité du mariage. Il faut être librement et sans contrainte pour toute la vie, fidélité, ouverture à la vie. 4.
S'ils vivent déjà ensemble, ils sont plus
libres. Ah, oui. Non, si vous êtes, oui, d'accord, plus royaliste que le roi, d'accord, mais c'est vrai que ça diminue la liberté. Je trouve que personnellement, aujourd'hui, le pilier le plus menacé, c'est la liberté. Ne serait-ce que par la vie commune avant le mariage, ne serait-ce que pour les unions sexuelles avant le mariage. Pourquoi l'Église demande l'abstinence avant le mariage? Tout simplement pour la liberté, le discernement. Pas pour emmerder le monde. C'est pour le discernement. Parce que l'union intime de l'homme et de la femme, l'union sexuelle, est tellement engageante, tellement prégnante, qu'elle peut parasiter le discernement. Oui, tout à fait, mais bon, c'est pas tout à fait pour tout le monde. Donc, oui. Ah non, celui qui refuse les enfants d'un commun accord ne peut pas se marier à l'église. Non.
Donc, ça veut dire que le mariage pareil, si par
exemple. Ah, mais non, mais oui, non, mais oui, mais. Non, mais s'il le dit officiellement, il n'y aura pas mariage, je veux dire. Il y aura... Oui, et s'ils disent non, et s'ils disent, mais écoutez, nous, on ne veut pas avoir d'enfants, mais là aussi, c'est des cas très rares, parce que là, je voyais une étude de l'INED, de l'Institut National de la Démographie. Je crois que c'est de l'ordre de 95% des couples qui souhaitent avoir des enfants. C'est hyper minoritaire les couples qui disent on se marie sans avoir d'enfants. C'est... Et puis ceux-là, souvent, se marient pas à l'église, du reste. Donc, et si quoi? Ah, si on a connaissance d'un couple comme ça, ben on peut aller voir le prêtre et puis on dit, écoutez, j'ai entendu, on peut écrire, d'abord écrire. Ils m'ont dit que, de toute façon, ils n'auraient jamais d'enfants. Ils n'en veulent pas parce que ça menace leur amour, parce que je suis patati, patata. Voilà, sachez ceci. Alors, le prêtre qui prépare, évidemment, ça le booste. Il dit, ben, est-ce qu'on pourra en parler? Quand est-ce que vous l'avez su? Dans quelle situation? Dans quelles circonstances? Et du coup, vous pouvez faire une déposition. Et du coup, le prêtre réinterrogeait les fiancés. On m'a dit que, est-ce vrai? Non, mais s'il a dit l'inverse avant... Oui, mais justement, mais là, il y a une preuve. S'il l'a dit au cours d'un dîner, dans son nous, on ne veut surtout pas d'enfants. L'enfant, c'est des emmerdements, etc., etc., ou c'est fini. Surtout, ils le disent devant témoins publiquement, devant 100 personnes. Mais bon, le jour du mariage, ils disent oui, parce qu'ils disent oui à tout. Mais alors, du coup, vous êtes témoin de ça, hop, voilà, attention, là, ça pardonne pas. Lettre qui vous prépare au mariage, nom, adresse, prénom, hop, j'envoie une lettre. Sachez que.
Nous, on l'a eu en préparation
au
mariage, ça. Hein.
Le fiancé disait. Ah, ben, c'est je sais pas. Non, mais ça, il faut annuler. Annuler. Oui, je ne sais pas, et pour ne pas dire je ne veux pas. Mais on ne lui demande pas de pas savoir, on lui demande de savoir, justement. Parce que si ce n'est pas ce qu'il veut, c'est un problème, déjà. Donc, du coup. Bon, moi je trouve, il me semble qu'un couple, mais c'est quand même là aussi, c'est hyper minoritaire, c'est rare, c'est quand même rarissime. Beaucoup de couples veulent des enfants et au contraire souffrent des stérilités, des difficultés à en avoir, etc.